France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Alimentation, comment les métaux lourds, les additifs ou encore les pesticides nous rendent malades, diabète de type 2, maladie de Crohn, cancer, maladie neurodégénérative, quels sont les mécanismes biochimiques de ces composés nocifs pour notre santé, quels effets sur notre microbiote intestinal ou sur notre cerveau, comment vraiment mettre à distance tous ces composés délétères pour notre organisme. Nos experts et expertes répondent à toutes vos questions au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 sur l'appli Radio France et la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode
France
d'emploi.
Inter. Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
Bonjour Mathilde Touvier, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes docteur en épidémiologie et santé publique, nutritionniste et directrice de recherche à l'INSERM. Bonjour professeur Robert Barouki.
Bonjour.
Vous êtes médecin biochimiste, biologiste moléculaire et toxicologue et vous dirigez l'Institut thématique de santé publique de l'INSERM. C'est quoi cet institut en quelques mots ?
L'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche biomédicale. C'est le plus gros institut de recherche en santé en Europe.
Et cet institut thématique
de santé publique ? L'Institut thématique, c'est un dixième de l'INSERM à peu près, donc qui se consacre à la santé publique, à la recherche en santé publique.
Et vous aviez publié chez Solar il y a une dizaine d'années. Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette ? Toujours d'actualité.
Toujours d'actualité, oui.
Bonjour Benoît Chassin.
Bonjour.
Vous êtes docteur en physiologie et génétique moléculaire et vous êtes directeur de recherche à l'Institut Pasteur. Alors j'aimerais qu'on débute avec une question d'actualité, le cadmium. Comme le rappelait Le Monde hier, 8 mois après l'alerte des médecins sur la bombe sanitaire que constitue le cadmium, la France n'a toujours pas adapté sa réglementation. Le cadmium, c'est un métal lourd, un métal très toxique, classé cancérogène pour l'homme. Presque la moitié des adultes dépassent le seuil d'exposition critique, selon Santé publique France. Comment expliquer cette contamination générale des Français ? Je rappelle que le cadmium, on le retrouve dans l'alimentation quotidienne, le chocolat, les céréales, les pommes de terre, les abats. Robert Barouki.
En fait, il faut revenir à la source en fait, du cadmium. Et donc, c'est présent dans les fertilisants à base de phosphate, parce que ça contamine ces fertilisants. Et à partir de là, en fait, tout ce qui a subi à un moment ou à un autre des fertilisants va être contaminé par le cadmium. Et puis ensuite, il y a les transferts habituels entre des végétaux, des animaux, etc. Et ça finit, la chaîne finit chez l'homme. Oui. Donc en fait, on a des doses relativement élevées effectivement en France.
Et c'est vrai que cela fait des années que les médecins et les chercheurs alertent sur ce polluant délétère pour notre santé. À quoi s'expose-t-on quand on consomme régulièrement du cadmium, professeur Abarouki ?
Il est maintenant considéré comme un cancérigène. Donc déjà, il y a l'effet cancérigène. Il y a un effet sur, comme beaucoup de médecins, lourd en fait à forte dose, il y a un effet sur le rein et en le cas du cadmium aussi sur les os. Donc ça a été répertorié. Bien sûr, c'est pas parce que vous avez consommé des abats ou autres que vous allez tomber malade. Hein. C'est pas du tout ça. C'est une augmentation du risque, surtout si on dépasse les valeurs toxicologiques donc de référence qui sont établies par l'agence donc sanitaire l'ANSES et en France donc on les dépasse dans certains cas. On est en train de revoir un peu ces valeurs toxicologiques de référence pour les abaisser et finalement être en cohérence avec ce qui se passe en Europe.
Alors, vous parliez de cancer. Le cadmium est susceptible de jouer un rôle dans l'accroissement des cancers du pancréas. Le cancer du pancréas, c'est l'un des cancers les plus agressifs. Depuis 2021, Santé publique France alerte sur le lien entre la consommation régulière de cadmium et l'explosion des cancers du pancréas en France. Je cite à Santé publique France, le cadmium est suspecté de jouer un rôle dans l'accroissement majeur et c'est extrêmement préoccupant. Robert Barouki.
C'est une suspicion, hein. il faut rester, disons les preuves ne sont pas complètement acquises pour le moment. Il y a des suspicions, il y a une augmentation du cancer du pancréas et on est en train de rechercher un peu les causes et parmi ces causes il y a des facteurs comme le cadmium, comme d'autres facteurs environnementaux, mais on reste à l'état étape de suspicion et on n'est pas encore à l'étape d'avoir quelque chose de très solide.
En tout cas, il y a une incidence sur les maladies cardiovasculaires, une méta-analyse publiée en 2024 dans la revue Environmental Pollution montre un sur-risque cardiovasculaire important à des doses très faibles, avec un risque de développer des pathologies quasiment multipliées par 3 dès le seuil de concentration critique.
Absolument, donc il faut faire gaffe parce que ce sont des choses qui n'étaient pas évidentes il y a quelques années, mais les travaux qui sont faits actuellement montrent ces problèmes de sur-risque. C'est vrai pour le cadmium, c'est vrai pour le plomb par exemple, on suspectait le plomb d'avoir des effets uniquement sur le cerveau et finalement on voit des effets cardiovasculaires. Donc il faut être vraiment prudent et il faut vraiment tendre vers une diminution de l'exposition de la population, c'est essentiel.
Et le cadmium peut également avoir des effets neurodéveloppementaux quand on a été exposé durant les périodes fœtales et à la petite enfance, même à faible dose. Moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi même à faible dose, des métaux lourds comme le cadmium peuvent avoir un effet aussi délétère sur notre santé, Robert Marouki.
Dans les effets toxiques, il y a le facteur toxique, ici le cadmium, et il y a le récepteur, la cible. Alors si la cible c'est le fœtus par exemple, ou l'enfant très jeune, c'est une cible particulièrement vulnérable. Et on a pu observer dans certaines situations des facteurs exogènes comme le cadmium, même à des doses relativement faibles, ayant des effets parce que la cible, c'est-à-dire le fœtus ou l'enfant, est particulièrement vulnérable. Ce ne serait pas nécessairement exactement la même chose chez un adulte, par exemple. Donc, il faut prendre les deux aspects et c'est comme ça qu'on découvre des effets à des doses relativement
faibles.
Donc,
contrairement à une idée reçue, la dose ne fait pas la dangerosité. Des molécules peuvent avoir des effets plus important à faible dose qu'à de fortes concentrations ?
Dans certains cas, j'aimerais corriger.
Bien sûr.
La dose fait toujours, malgré tout, l'effet. Simplement, il s'avère que dans certaines conditions, et en particulier pour certains perturbateurs endocriniens, il y a des effets qu'on observe à faible dose, alors qu'on ne les suspectait pas nécessairement avant. Et donc, il est possible donc, que dans certaines situations, pour certains facteurs, les faibles doses puissent avoir un effet. Il y a des cas aussi où les doses, à plus forte dose, on observe moins ces effets. On ne l'explique pas nécessairement toujours très bien, mais il faut en tenir compte. Ce qui fait que quand on fait nos tests, quand les agences font les tests, quand les laboratoires font les tests, il faut aussi penser à descendre les doses assez bas.
Pourquoi ces substances chimiques délétères, hein, comme le cadmium, le plomb, pourquoi nous rendent-elles malades ? Quels sont les mécanismes, en quelques mots et de façon très schématique, professeur Marouki ?
Les mécanismes sont assez divers. Je ne peux pas dire qu'il y a un seul mécanisme par lequel toutes ces substances peuvent passer. Il y a, par exemple, pour le cadmium, on s'est rendu compte il y a quelques années que c'était un perturbateur endocrinien, ce qui n'était absolument pas quelque chose qu'on croyait auparavant. Les métaux lourds ont aussi des propriétés chimiques tels qu'ils peuvent provoquer ce qu'on appelle un stress oxydant, c'est-à-dire une augmentation, disons, des molécules oxydantes dans notre organisme, ce qui est quelque chose qui est en général assez mauvais et donc qui peut avoir des effets inflammatoires dans certaines situations. Donc c'est une multitude. Dans certains cas, il y a certaines substances qui sont aussi mutagènes. Bon, ça c'est quelque chose qui est en général bien testé. Et puis on découvre de nouveaux mécanismes, notamment par exemple sur le microbiote, mais là je pense qu'il y a un spécialiste
grand spécialiste, Benoît Chassin.
Oui, il peut y avoir. Alors, il y a quelques études qui sont en cours pour montrer justement l'impact de certains de ces métaux lourds sur le microbiote. Mm-hmm. Là aussi, il nous reste encore beaucoup de choses à étudier, beaucoup de choses à comprendre. Mais clairement, le microbiote pourrait être aussi une cible, et on en reparlera avec les additifs, mais pourrait être une cible de tous ces facteurs environnementaux, alimentaires, qui sont associés à des événements de mauvaise santé.
Alors l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, confirme que les Français sont exposés à des niveaux préoccupants de cadmium. L'ANSES qui recommande de baisser fortement la teneur en cadmium autorisée, de passer de 90 mg par kilo à 20 mg par kilo. Pourtant, quelles sont les mesures fortes prises par les pouvoirs publics pour que les Français ne soient plus autant exposés au cadmium ? Je m'adresse aux spécialistes en santé publique que vous êtes, Robert Marouki.
Il faut remonter à l'origine de la contamination. On ne peut pas tout mettre sur le dos du consommateur ou de l'individu qui doit prendre des mesures pour éviter ceci. C'est très bien, dans certaines situations, il faut qu'on le fasse, on donne des recommandations, mais dans ce type de situation, on voit d'où vient l'origine de la contamination, ce sont les fertilisants, et donc il faut adapter nos méthodes agricoles pour utiliser moins de fertilisants contenant du cadmium pour qu'ensuite toute la chaîne qui suit soit un tout petit peu plus saine.
Mais que peuvent faire les consommateurs qui nous écoutent, consommateurs et citoyens, face à cette situation? Que faire?
Ce sont les mêmes recommandations qu'on fait en général. Il faut varier son alimentation. Il ne faut pas, disons, avoir une alimentation trop focalisée sur certains aliments. Ne pas manger de la viande tout le temps, ça c'est une évidence. Ne pas manger même certains poissons gras. Il faut en manger, mais de manière raisonnable et en alternant avec des poissons maigres, des légumes. Il faut alterner. Ça ne réglera pas complètement le problème, mais c'est déjà, ça règle un grand nombre de problèmes.
Mathilde Touvier.
Oui, tout à fait. C'est exactement la recommandation du Programme National Nutrition Santé. Quand on dit qu'il faut manger deux poissons par semaine, dont un poisson, après, justement, en compte ces moments de risque pour ne pas dépasser les seuils d'exposition aux métaux lourds. Et la notion de variabilité, de variété de l'alimentation évoquée par le professeur Barouki est absolument essentielle pour limiter l'exposition toujours, tous les jours, de la même manière à un même contaminant qui viendrait d'une même source alimentaire. On limite vraiment les expositions avec ces recommandations.
Et nous accueillons Enora de Pau. Bonjour Enora.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Alors, quelle est votre question, Enora?
Alors, je voulais savoir si on pouvait doser le cadmium dans le sang. Et si ça pouvait se faire pour, en dosage sanguin dans les laboratoires, et si ça avait une utilité.
Très bonne question. Je m'adresse au toxicologue, professeur Barouki.
On peut doser le cadmium comme on peut doser beaucoup de métaux lourds. Ce ne sont pas nécessairement toujours des méthodes simples. On peut le faire. La question est... Et alors, si vous trouvez un peu de cadmium dans votre sang, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas faire une intervention médicamenteuse là-dessus, parce qu'il y aurait peut-être presque plus de risques à faire l'intervention. Il n'y a pas de choses simples, si vous voulez, à faire une fois qu'on a du cadmium. Ce sont les mêmes recommandations qu'on ferait à tout le monde. Variez votre alimentation, essayez d'éviter d'avoir un seul type d'alimentation. Donc moi, je ne suis pas nécessairement favorable à ce que tout le monde aille doser.
Pourquoi expliquez-nous.
Parce qu'on est pour un dosage quand il y a une sanction derrière, quand il y a une approche pour diminuer. Quand il n'y a rien, de simple et d'inoffensif à faire dans la suite, eh bien, il faudrait peut-être pas nécessairement y aller, sauf dans des conditions très particulières. Vous avez une zone très contaminée, vous voulez savoir si ça dépasse de trop, pour que la zone ensuite soit, détoxifiée. J'ai pas de solution miracle à donner quand on a un taux de cadmium élevé.
Benoît Chasson.
Ouais, et concernant l'alimentation, du coup, pour revenir à cette doctrine de dire manger riche, équilibré, varié, on en revient à l'importance et l'intérêt du microbiote intestinal, qui est composé, je le rappelle vraiment très brièvement, de dizaines, de centaines, voire même chez certaines personnes, de milliers d'espèces bactériennes différentes. Et en fait, toutes ces bactéries ont des besoins un petit peu différents. Et du coup, il va falloir qu'on les nourrisse, et qu'il va falloir qu'on nourrisse cette complexité, cette diversité. D'où cette recommandation de manger le plus riche, diversifié possible pour nourrir cette diversité du microbiote et nous protéger contre certaines pathologies qui peuvent être en lien avec des dérégulations de ce microbiote.
On va revenir sur ce fameux microbiote intestinal dans quelques instants. Question annexe à celle d'Enora. Imaginons, je fais une prise de sang, on découvre des taux de cadmium élevés dans mon organisme. Est-ce qu'il est possible, alors c'est une question un peu naïve, hein, mais de détoxifier, mon organisme de ce cadmium, et ça peut être le cas aussi peut-être de l'aluminium ou du plomb, on va en parler dans quelques minutes. Est-ce qu'il est possible de détoxifier, même si je sais que le foie est un organe qui est fait pour détoxifier notre organisme? Il y a cette question en creux aussi, oui, de la prise de sang dont parlait Enora.
Mais c'est une question qu'on comprend très bien, mais dire qu'il y a des solutions simples, pour certains métaux, il y a ce qu'on appelle des substances qui sont des chélateurs qui pourraient être utilisées, mais dans des situations vraiment très exceptionnelles d'accident.
Chélateurs,
ce sont des substances qui viennent s'accrocher au métal et permettre une élimination plus facile du métal par les voies, disons, naturelles, que sont l'urine ou la bile. Mais c'est exceptionnel, c'est quelque chose à utiliser dans des situations extrêmement rares où on a des arguments pour dire cette dose de métal lourd a eu déjà un effet et un risque d'avoir un effet majeur sur la santé, parce que ce ne sont pas des substances innocentes. Dès que vous intervenez médicalement, ce n'est jamais très innocent.
Mais vous comprenez l'inquiétude de ceux qui nous écoutent, qui se disent, bon ben voilà, j'ai peut-être un taux de métaux lourds très élevé dans mon organisme, comment faire pour m'en débarrasser,
Benoît Chassin ? D'où l'intérêt, je pense, de continuer la recherche, de comprendre les mécanismes, et comme le disait le professeur Baroukhi, de revenir vraiment à la source même de l'exposition via l'agriculture, etc.
Allez, merci beaucoup Enora de nous avoir appelé. On évoque le cadmium, et quid de l'aluminium ou du mercure dans notre alimentation ? C'est l'ANSES qui alerte à nouveau. On en parle juste après avoir écouté Stromae, Tous les mêmes, une chanson sortie en 2013, 10h20 sur Inter.
Vous les hommes êtes tous les mêmes, macho métu, monde mauvais est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avec de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnang, et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Et interpréter tous les mêmes.
Ali Rebéi. Grand bien vous fasse sur France Inter.
Alimentation, comment les additifs, pesticides et autres métaux lourds nous rendent malades. C'est le thème ce matin en compagnie de trois éminents chercheurs, Robert Baroukhi, Mathilde Touvier et Benoît Chassin. Alors on a évoqué il y a quelques minutes les effets délétères de l'exposition au cadmium, nocif pour notre santé. L'ANSES alerte également sur les niveaux préoccupants de plomb, de mercure, d'aluminium dans notre santé. Alors quels sont les risques liés au plomb, au mercure, à l'aluminium les risques avérés, professeur Robert Baroukhi? Alors, ce sont des produits notamment qu'on retrouve dans les l'alimentation à base de céréales, avec donc ces céréales qui puisent dans les sols des éléments nutritifs, mais également des contaminants. Et le méthylmercure, par exemple, la forme la plus, la forme organique la plus toxique du mercure, eh bien, on la retrouve dans le poisson et en particulier dans les poissons prédateurs en bout de chaîne alimentaire, comme le thon. Quels sont les risques donc de ces métaux lourds comme le plomb, le mercure et l'aluminium?
Bon, si on prend, il y a pas des, disons, des risques nécessairement communs, mais il y a quelques-uns quand même. Mais si on prend par exemple le plomb, le risque traditionnel bon, qu'on connaît tous, c'est le risque sur le développement de l'enfant, le développement neurocomportemental de l'enfant. Ça, c'est un risque avéré et depuis pas mal de temps. Mais le plomb, c'est un succès de la santé publique. En fait, il y a eu des mesures générales. Tout le monde prend, beaucoup de gens prennent, en tout cas, de l'essence sans plomb maintenant. Donc, il a baissé dans les expositions. On a beaucoup moins de plomb.
On est moins exposé au plomb, oui, dans l'alimentation aujourd'hui.
Par l'alimentation, mais aussi, c'était par l'eau. Hein, la tuyauterie en plomb, plus l'air, etc. Donc, il y a des expositions multiples par le plomb.
Et le mercure?
Et le mercure, là, il y a une exposition quand même, les poissons gras, et puis tout ce qui est gras, en fait, parce que le mercure s'accroche à ces lipides, et donc c'est quand même par ces poissons gras que le mercure, l'exposition principale a lieu, et c'est pourquoi l'ANSES, cette excellente agence que nous avons, recommande d'alterner entre des poissons gras et des poissons maigres, et de ne pas uniquement avoir une alimentation uniquement concentrée sur les poissons gras.
Prenons l'exemple du méthylmercure, donc la forme organique la plus toxique du mercure, quels sont les risques pour la santé?
Alors, beaucoup de métaux lourds ont un risque au niveau du rein, ça c'est clair. Le méthylmercure au niveau du cerveau aussi, ça c'est quelque chose qui a été bien identifié. Et la réalité, c'est qu'on découvre régulièrement de nouveaux mécanismes et de nouvelles cibles. J'ai cité tout à l'heure les problèmes cardiologiques, hein, donc qu'on ne suspectait pas nécessairement avant et qui semblent être une cible d'un certain nombre de métaux lourds. Donc il faut regarder dans l'ensemble.
Benoît Chassin, l'impact de ces métaux comme le mercure, comme le plomb, comme l'aluminium sur le microbiote intestinal, votre grande spécialité?
Il y a moins de choses. Ce serait plutôt des contaminants qui impacteraient directement l'intestin directement nos cellules à nous, nos cellules humaines, mais moins les cellules bactériennes qui nous habitent.
Et nous accueillons Viviane. Bonjour Viviane.
Oui, bonjour Ali. Viviane, donc je suis maraîchère bio à Pélussan, dans la Loire, et le parc naturel régional du Pilat. Et je voulais tout simplement dire que la solution pour éviter un petit peu les effets néfastes sur la santé du cadmium et aussi des pesticides, c'est de consommer des produits produits par l'agriculture biologique, puisque nous n'avons pas le droit d'utiliser d'engrais chimiques, et donc nous ne sommes pas contaminés, nos produits ne sont pas contaminés par le cadmium issus des engrais chimiques produits majoritairement en Nord-Afrique.
Et c'est vrai, vous avez raison Viviane, de nombreuses auditrices et auditeurs doivent se dire, moi le premier, qu'il vaut peut-être mieux se tourner vers l'agriculture biologique, professeur Robert Barouki.
Oui, si on veut être moins contaminé par un certain nombre de pesticides et de, par exemple, le cadmium, il vaut mieux se tourner vers l'agriculture biologique. Il faut juste avoir en tête aussi le fait que ce sont en moyenne des produits qui sont plus chers que l'autre agriculture et que donc une partie de la population va peut-être avoir du mal. Et donc là, il y a une problématique d'inégalité, si vous voulez, d'accès, d'inégalité sociale dont il faudra tenir compte. Et ça, la santé publique en tient compte en général dans ses analyses.
Benoît Chassin ?
Et il y a un lien entre certains pesticides et microbiotes. J'en parlais, le microbiote le plus riche, diversifié, il est le meilleur. Le meilleur, il va être un allié en santé. Et on sait très bien que certains pesticides vont pouvoir venir tuer, éradiquer, enlever certaines bactéries importantes dans notre microbiote.
Merci beaucoup Viviane de nous avoir rappelé un point quand même sur ce microbiote. Décrivez-nous ce microbiote intestinal. Petit rappel pédagogique sur sa fonction, ses fonctions.
Alors en deux heures ou en une minute? Alors en une minute, qu'est-ce que le microbiote?
Vous avez un peu plus d'une minute.
Qu'est-ce que le microbiote intestinal? Donc c'est ce qu'on appelait avant la flore. En fait, ça va être toute cette communauté très complexe de micro-organismes.
Un kilo et demi à peu près ?
Un kilo et demi à deux kilos par individu, oui. Et on estime à 100 000 milliards de bactéries, virus, champignons. Donc ce ne sont pas que des bactéries, principalement des bactéries. On a aussi des bactéries, des virus, des champignons qui nous habitent, qui nous colonisent, 100 000 milliards. Et encore une fois, ce n'est pas une espèce de bactérie qui est présente 100 000 milliards de fois. Ça va être des dizaines, des centaines, voire même des milliers d'espèces bactériennes qui cohabitent et qui en fait sont très très importante à la fois en santé, hein, puisque certaines vitamines vont être produites grâce à notre microbiote intestinal. Elles vont nous protéger contre certaines infections. Elles vont participer aussi à ce qu'on ait un bon système immunitaire. Mais d'un autre côté, si on n'en prend pas soin, et c'est ce qui rend fascinant cette étude du microbiote, si on n'en prend pas soin, notamment via l'alimentation, on va en reparler, ce même microbiote peut conduire à tout un tas de pathologies inflammatoires chroniques, toutes celles que vous citiez en fait en début d'émission, cancer colorectal, diabète de type 2,
maladie de Crohn,
certaines maladies neurodégénératives aussi. On sait très bien qu'il y a un lien entre microbiote intestinal en mauvaise santé et toutes ces pathologies qui ont une composante inflammatoire.
Pourquoi ? Expliquez-nous pourquoi.
Alors, tout simplement parce qu'en fait, le microbiote joue vraiment un rôle de rhéostat. Alors, au niveau intestinal, ça fait sens. Hein, on sait très bien que le microbiote nous colonise dans l'intestin et que si on n'en prend pas soin, il va pouvoir être pro-inflammatoire. Et du coup, ça fait plutôt sens qu'il puisse conduire à la maladie de Crohn, qui est une maladie intestinale, certains cancers, notamment le cancer colorectal, mais aussi via la régulation de l'inflammation, via la régulation du métabolisme, la manière avec laquelle on digère, la manière avec laquelle on est capable d'extraire les calories de notre alimentation. Ce même microbiote peut aussi jouer un rôle dans le diabète de type 2, l'obésité, etc. Et l'inflammation est toujours assez centrale, en fait, dans le potentiel rôle négatif que peut jouer le microbiote intestinal.
Et comment se déclenche cette inflammation chronique ou de bas grade ?
Alors, on parle vraiment de choses vraiment sur le long terme. Oui. Encore une fois, on va parler d'additifs. C'est pas parce qu'un jour, on va manger un aliment transformé, ultra transformé, qui va contenir tout un tas d'additifs, que le lendemain, on va développer une maladie de Crohn. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais il y a des très belles études d'associations, des très belles études épidémiologiques, et il y a des essais cliniques qui sont en cours pour montrer le lien de cause à effet, où on sait très bien que dans notre quotidien, on va avoir tous ces stresseurs perturbateurs, les additifs en font partie, ce ne sont pas les seuls, mais clairement, ce sont vraiment des agresseurs modernes et des agresseurs très très importants de notre microbiote, et vont participer comme ça à l'érosion un petit peu de notre microbiote. Certaines bactéries vont disparaître, ne vont jamais pouvoir revenir, on va perdre en diversité, on va perdre en richesse, ce qui va pouvoir conduire à de l'inflammation chronique de bas grade, et in fine conduire au diabète de type 2, maladie de Crohn si on a des prédispositions génétiques, etc.
Exemple concret, on va parler des additifs dans quelques instants, avec les pesticides. Expliquez-nous ce qu'il se passe concrètement quand notre microbiote intestinal est exposé de façon régulière sur un temps relativement long aux pesticides. Qu'est-ce qui se passe concrètement ?
Alors, ça peut être deux mécanismes d'action principaux. Soit ces pesticides vont pouvoir avoir vraiment un rôle de perturbateur de qui est là, c'est-à-dire de quelles sont les bactéries présentes dans notre microbiote, et favoriser la perte de certaines bonnes bactéries. Dans notre microbiote, on a vraiment des bactéries qui vont être plutôt bénéfiques, des bactéries plutôt neutres et des bactéries plutôt négatives. En fait, on sait qu'il y a certains pesticides, certains additifs, hein, tout ce que je dis là s'applique vraiment à tous ces contaminants alimentaires ou tous ces additifs alimentaires, vont pouvoir perturber un petit peu cette balance entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Donc ça, c'est le premier mécanisme d'action. Le deuxième, c'est aussi quel va être le rôle de ces bactéries. Certaines bactéries sont bonnes, mais pour qu'elles soient bonnes et qu'elles jouent un rôle en bonne santé, il faut qu'on en prenne soin. Et inversement, certains additifs vont pouvoir justement perturber ces bactéries et, au lieu de nous protéger, vont se retourner contre nous, induire l'inflammation et toutes les pathologies qu'on mentionnait.
Professeur Barouki.
J'ai une relation passionnelle avec le microbiote, parce que vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur la dioxine, les PCB, enfin ces contaminants, et sur une protéine dans notre organisme, ce qu'on appelle le récepteur, qui détecte ces substances-là. Il s'avère depuis quelques années que cette même protéine détecte des substances venant du microbiote pour établir un lien entre ce microbiote et le système immunitaire que nous avons. Et donc ça a ouvert un champ d'études absolument magnifique dans un domaine que je pensais dominer, mais que finalement je dois maintenant un peu courir après.
Et Mathilde Touvier, j'aimerais qu'on en vienne avec vous aux additifs présents dans notre alimentation. Émulsifiants, conservateurs, édulcorants, 300 additifs alimentaires autorisés par les agences de régulation, sulfites, nitrite de sodium, nitrate de potassium, sorbate de potassium, ascorbate de sodium, dioxyde de soufre, des additifs que l'on connaît sous d'autres noms, E250, E252, E301, E338, E220 et j'en passe. Alors, expliquez-nous, Mathilde de Touvier, c'est quoi un additif et à quoi servent-ils et pourquoi sont-ils aussi présents dans notre alimentation ? Éclairez-nous, Mathilde de Touvier.
Oui, effectivement, hein, vous le disiez, c'est à peu près 330 additifs qui sont autorisés hein, sur le marché européen et qui vont avoir des fonctions diverses. Certains vont être là pour certains conservateurs, par exemple, ou des antioxydants. On peut se dire que là, il y a un ratio bénéfice-risque hein, pour les consommateurs puisqu'ils sont là pour éviter des contaminations par des micro-organismes ou bien l'oxydation de nos aliments. Mais d'autres additifs, hein, qui sont quand même la majorité, sont vraiment là finalement pour rendre le produit plus attractif, pour nous donner envie en tant que consommateur d'en consommer, voire d'en surconsommer. Et donc là, on pense par exemple aux colorants, aux édulcorants qui donnent le goût du sucre sans sucre dans le produit, ou aux émulsifiants qui sont vraiment là pour améliorer la texture, la texture des produits. Et donc là, on est dans des additifs finalement qui ont des propriétés plus cosmétiques, on va dire, qui ne protègent pas la santé, mais qui, pour certains, on a de plus en plus de preuves qui s'accumulent au niveau épidémiologique comme au niveau expérimental et sur le microbiote, avec les travaux du docteur Benoît Chassin, qui montrent des risques pour la santé. Donc, on peut vraiment se poser la question de doit-on conserver tous ces additifs dans nos assiettes pour ceux qui n'ont vraiment aucun bénéfice santé et que des risques potentiels.
Mathilde Touvier, pour résumer, les additifs sont donc des substances qui ne sont pas habituellement consommés comme aliments, ni utilisés comme ingrédients, mais qui sont ajoutés à la recette dans un but technologique. Ce sont des substances qu'on ne trouve pas dans nos cuisines.
Oui, tout à fait. C'est la définition officielle. Et donc, ce sont vraiment des ingrédients. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, vous les trouverez dans la liste d'ingrédients des produits. Le règlement européen impose de les lister, donc soit avec leur nom compliqué, ce que vous citiez tout à l'heure, ascorbate de sodium, etc., ou bien avec les E quelque chose, les fameux codes européens d'additifs, donc E951 pour l'aspartame, par exemple.
Alors, les additifs peuvent être d'origine naturelle ou obtenus par synthèse, mais attention, même quand ils sont d'origine naturelle, ces additifs peuvent être extraits à l'aide de solvants. Je pense à l'hexane, par exemple, présent dans les huiles végétales. L'hexane, pour le dire vite, c'est un peu un produit, un sous-produit du pétrole qui ressemble à du white spirit. Faut faire attention à tous ces additifs, même quand ils sont d'origine naturelle.
Alors oui, en fait, là, il y a deux problématiques. Il y a celle des additifs et puis il y a celle des auxiliaires technologiques comme l'hexane qui sont utilisés pendant les procédés de transformation, ici pour les huiles, etc. Et qui ne sont pas censés, sur le papier, en théorie, se retrouver dans le produit fini, sauf qu'en fait, on en retrouve des traces et parfois des quantités ou des doses qui sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé. Et là, le problème de la réglementation actuelle, c'est qu'elle n'impose pas aux industriels de déclarer ces auxiliaires technologiques sur l'emballage. Donc, en tant que consommateur, on n'a vraiment aucune idée de ce qui se trouve dans l'aliment en termes d'auxiliaires technologiques, contrairement aux additifs où là, ce sont des ingrédients ajoutés et présents dans la liste d'ingrédients sur l'emballage.
Et vous pouvez retrouver sur l'appli Radio France l'émission que nous avons consacrée il y a quelques semaines à l'hexane avec le journaliste Guillaume Coudray. Alors Mathilde Touvier, quels sont les risques pour notre santé de consommer régulièrement ces additifs? Expliquez-nous, faites-nous un tableau un peu clinique de tous les risques pour notre santé.
Alors, donc ce qu'il faut quand même déjà rappeler, effectivement, c'est que ces additifs, avant d'être mis sur le marché, ils sont évalués. En Europe, on dépend de l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Mais le problème de ces évaluations, c'est qu'elles ne sont que partielles. C'est-à-dire que il y a des trous dans la raquette de l'évaluation. Le fait que, notamment, on n'ait pas vraiment d'idée des impacts à long terme, on est surtout sur des cibles toxicologiques pointues. Finalement, l'exposition chronique, l'impact que ça peut avoir sur le risque de cancer, diabète, etc., on n'en sait rien et ce n'est pas évalué vraiment dans ces études-là avant de mettre sur le marché. Pareil, l'effet des mélanges, on ne sait pas très bien. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment évaluées et qui font qu'aujourd'hui, avec les nouvelles avancées scientifiques de ces dernières années, on commence à avoir de nombreux signaux. qui pointent des risques pour certains additifs. Alors, pour certains plus que d'autres, par exemple pour les nitrites qu'on trouve souvent dans les charcuteries, hein, il y a même eu un avis de l'ANSES en 2022 qui a reconnu leur caractère cancérigène. Pour l'aspartame, c'est un édulcorant donc qui vient d'être qu'on trouve hein, dans des boissons light bien connues. Il a été classé cancérigène possible pour l'homme par le Centre international de recherche contre le cancer de l'OMS. Et puis, on a vraiment des signaux qui s'accumulent aussi sur certains émulsifiants, certains conservateurs également. Dans l'étude NutriNet Santé hein, qu'on conduit au laboratoire, il y a plus de 182 000 participants. D'ailleurs, on cherche toujours de nouveaux volontaires si vous voulez nous rejoindre sur l'étude NutriNet Santé. C'est une étude en ligne, étude-nutrinet-santé.fr.
Je rappelle juste, bien, Mathilde Touvier, que vous êtes l'investigatrice principale de la cohorte NutriNet Santé. Et d'ailleurs, cette étude sur les additifs a fait l'objet de deux publications distinctes, l'une dans le British Medical Journal et l'autre dans la revue Nature Communication. Et vous avez dit, il y a plus de 180 000 adultes participant à cette cohorte NutriNet Santé. Donc c'est une étude très robuste.
Oui, tout à fait. Donc, ce sont les dernières études que vous citez là, qui portaient sur les conservateurs et les additifs antioxydants. Et bien, on en est maintenant à une quinzaine de papiers, hein, d'articles scientifiques sur cette question des additifs alimentaires. Et on a pu montrer des liens entre donc, différents édulcorants, émulsifiants, conservateurs, et y compris des mélanges, ces additifs consommés en mélange tels qu'on les consomme dans la vraie vie.
C'est l'effet cocktail.
Associés. Voilà, les potentiels effets cocktails avec des interactions, des synergies entre des additifs qu'on consomme en même temps, eh bien, on a montré des liens de ces différents additifs avec des risques de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 ou encore d'hypertension artérielle. On travaille maintenant sur d'autres problèmes de santé comme les symptômes dépressifs ou la dépression, par exemple, et la perturbation du microbiote intestinal au niveau épidémiologique en lien avec l'équipe du professeur Benoît Chassin qui étudie ça au niveau expérimental et avec nous au niveau épidémiologique. Donc, on a vraiment une convergence là maintenant d'éléments qui montrent vraiment des signaux de plus en plus convaincants sur les impacts santé de plusieurs de ces additifs couramment consommés.
Professeur Benoît Chassin.
Oui, alors pour revenir sur les additifs et pour revenir sur le microbiote, puisqu'on en revient toujours au microbiote au final, en fait, tous ces additifs, il n'y en a aucun qui ont été testés par le passé pour leur impact sur le microbiote. Alors, pourquoi le microbiote, on sait qu'il existe depuis des siècles, hein, le microbiote a été découvert il y a très très longtemps. Mais l'impact très important de ce dernier sur toutes les pathologies dont on parlait tout à l'heure, l'impact de ce dernier en santé et en pathologie chronique humaine, en fait, la découverte de cet impact-là n'est que très récente. Et du coup, lorsqu'on commence d'étudier, alors il y a plein de travaux qui sont en cours, il faut qu'on continue les études, mais quand on étudie en fait l'impact de ces additifs sur le microbiote intestinal, on se rend compte que ces additifs, même s'ils sont inoffensifs pour nous, pour notre intestin, nos cellules, ils ne sont pas toxiques en tant que tels, par contre, sur notre microbiote, ils peuvent vraiment avoir des conséquences très très négatif sur ce dernier. Il y a des travaux en Israël sur les édulcorants, il y a des travaux aux États-Unis sur les colorants, nous on travaille beaucoup sur les agents émulsifiants, et en fait on se rend compte que via leur impact négatif sur le microbiote, ces derniers peuvent conduire à toutes les pathologies qui ont été mentionnées précédemment.
Robert Marouki.
Oui, c'est un nouveau mécanisme en fait qu'on percevait pas du tout avant et qui vient se rajouter à tous les autres mécanismes dont, qu'on a évoqué tout à l'heure et qu'il va falloir maintenant absolument le tester assez tôt dans le développement d'une substance.
Quelques additifs associés à un risque plus élevé de cancer, les sorbates, en particulier le sorbate de potassium, associé à une augmentation de 14% du risque global de cancer et à une augmentation de 26% du risque de cancer du sein. Les sulfites, associés à une augmentation de 12% du risque global de cancer. Le nitrite de sodium, associé à une augmentation de 32% du risque de cancer de la prostate, alors que le nitrate de potassium est associé à une augmentation du risque de cancer général et du cancer du sein. Les acétates sont associés à une augmentation du risque de cancer et du cancer du sein. Donc, Mathilde Touvier, il faut vraiment, quand on fait ses courses au supermarché, regarder attentivement les étiquettes de tous ces aliments ultra transformés qui utilisent massivement ces additifs.
Oui, alors globalement, justement, beaucoup de ces additifs dont on parle sont des marqueurs d'ultra-transformation. Mmh. Et donc, ce qu'on a montré, on a publié ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc, on fait une synthèse de toutes les études épidémiologiques qui se sont intéressées à une question donnée. On a publié ça fin 2025, donc tout récemment. Et on a montré qu'il y avait maintenant une centaine d'études qui associaient une consommation d'aliments ultra-transformés plus importante avec des problèmes de santé, donc mortalité prématurée, maladie cardiovasculaire, obésité, diabète de type 2, hypertension, etc. Donc, globalement, ces aliments ultra-transformés, il faut les limiter dans notre alimentation. Pour reprendre ce que disait le professeur Barouki tout à l'heure, les premières choses à faire, c'est vraiment, en tant que santé publique et en tant que politique publique, de protéger les consommateurs, avec notamment, on espère, le prochain programme de nutrition santé qui va aller un peu plus loin sur ces aspects-là, et avec des mesures qui vont réguler l'offre alimentaire, ce qu'on est autorisé à mettre sur le marché, la publicité et le marketing pour ces produits-là. Donc, il y a des choses à faire là-dessus. Mais si on peut donner des conseils aux consommateurs, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, c'est d'être vigilant sur trois points quand on s'intéresse à l'impact sur la santé de nos aliments. Déjà, on n'en parle pas aujourd'hui, mais ça reste quand même le premier truc à regarder, le profil nutritionnel, c'est-à-dire que trop gras, trop sucré, trop salé, pas assez de fibres, ça reste quand même très très important, et pour ça le Nutri-Score est là pour nous aiguiller. La deuxième chose maintenant, effectivement, c'est le côté ultra-transformation, et donc dans l'attente d'un Nutri-Score qui aurait évolué, qui prenne en compte cette dimension, on y travaille aussi, on regarde la liste d'ingrédients. Si vous voyez des tonnes de choses que vous n'avez jamais dans vos cuisines, il y a probablement une prudence à avoir par rapport à ces produits. Et puis l'autre aspect, on en parlait en première partie d'émission et on va en reparler avec les pesticides, mais de privilégier le bio autant que possible, ça fait partie des conseils aussi. Et tout ça, d'un point de vue politique, l'idée, c'est que ces produits qui cochent ces trois cases deviennent les plus accessibles financièrement, les moins chers. Et donc ça, c'est des choix politiques à faire aussi pour permettre à tout le monde d'y avoir accès.
Alors, j'ai cité les cas de cancer liés à la consommation régulière d'additifs. Une autre étude, dans la revue Nature Communication, montre qu'une consommation plus élevée d'additifs est associée à un risque accru de diabète de type 2, avec quelques additifs incriminés comme le sorbate de potassium, le métabisulfite de potassium, le nitrite de sodium, l'acide acétique, l'acétate de sodium. Bref, pourquoi une consommation plus élevé de conservateurs alimentaires, d'additifs, provoque un risque accru de diabète de type 2, Benoît Chassin?
Très probablement en lien avec l'inflammation. Ça, on le sait, on sait très bien qu'un microbiote en mauvaise santé va pouvoir induire et conduire à de l'inflammation de bas grade. Et en fait, cette inflammation de bas grade va, via des mécanismes dont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut conduire à favoriser la chronicité, la sévérité, l'apparition du diabète de type 2, voire même du diabète de type 1. Il y a certaines études qui suggéraient que ce serait également le cas pour le diabète de type 1. Donc, très probablement, le microbiote serait aussi, très probablement ici, un acteur clé, en fait, du lien entre ces additifs et diabète de type 2.
Beaucoup de questions sur l'effet cocktail de tous ces additifs. Robert Barouki, je rappelle que vous êtes également toxicologue. Oui. Rappelez-nous ce qu'est cet effet cocktail.
L'effet cocktail, ça consiste à dire que si on est exposé à une dizaine de substances, et en fait on est exposé souvent à beaucoup plus que ça, mais admettons qu'on soit exposé à une dizaine de substances, il est parfois, chacune de ces substances peut avoir un effet, mais admettons que chacune individuellement n'ait pas un effet significatif sur la santé. Le fait de les prendre ensemble, à 10, fait que finalement, la somme de tout ça, soit parce que c'est additif, soit parce que c'est synergique dans certaines situations, peut entraîner malgré tout un effet sur la santé. Or, la réglementation, elle est toujours faite substance par substance. Donc, il faut toujours penser que dans la vraie vie, on est confronté à un mélange de substances qui peut expliquer des effets observés, alors que dans les études réglementaires pures, substance par substance, on ne voyait pas des effets à des doses, disons, significatives.
Benoît Chassin.
Et du coup, nous, au laboratoire, on a des études en cours sur ces aspects-là, où justement, on collabore avec l'équipe de Mathilde Touvier, on utilise les données de la cohorte Nutrinet Santé pour définir en fait des régimes un petit peu d'exposition moyenne, c'est-à-dire ce à quoi la combinaison d'additifs aux bonnes doses auxquelles on est exposé en moyenne, et on voit des effets vraiment très très dramatiques sur le microbiote intestinal.
Profitons-en pour faire avancer la recherche. Mathilde Touvier, rappelez-nous comment on peut participer à cette cohorte Nutrinet Santé.
Oui, Nutrinet Santé, c'est vraiment l'occasion pour tout le monde à partir de 15 ans et qui aurait un accès à Internet, que ce soit sur le smartphone ou sur l'ordinateur, de contribuer à la recherche publique en alimentation, activité physique et santé. Et donc, les participants, en se connectant sur études-nutrinet-santé.fr, vont remplir de temps en temps des questionnaires sur leur alimentation, leur mode de vie, leur état de santé, évidemment, leur activité physique. Nous, ça va nous permettre de collecter des données qui sont au final super détaillées. C'est vraiment l'étude la plus détaillé au monde sur les questions d'alimentation et de santé, et de pouvoir faire des liens comme ça entre le fait de manger plus ou moins d'additifs ou de pesticides ou de plus ou moins être exposé à tel ou tel métaux lourds, par exemple, et le fait d'avoir un risque plus ou moins important de développer ces maladies chroniques. Donc, c'est vraiment un geste citoyen qui aide beaucoup la recherche.
Taper sur un moteur de recherche, Nutrinet Santé, contribuer à la recherche. À propos de recherche, Benoît Chassin, j'aimerais en citer l'une de vos recherches, pour qu'on comprenne bien comment les additifs vont déséquilibrer notre flore intestinale. L'exemple, c'est vos recherches sur un émulsifiant, le CMC, le carboxyméthylcellulose. C'est un émulsifiant présent dans les brioches industrielles, le pain de mie ou les glaces. Que se passe-t-il quand on consomme à long terme ce CMC présent donc dans ces aliments et les effets sur le microbiote? Expliquez-nous, ça c'est très concret, c'est une des recherches que vous avez menées.
Alors c'est une des recherches qu'on a menées, qu'on continue de mener. C'est quelque chose qui a commencé il y a maintenant plus de 10 ans. Le papier original a été publié il y a 10 ans désormais.
Et en fait, donc on a du recul.
On a un petit peu de recul. On a commencé dans des modèles précliniques, ensuite on a fait des expériences in vitro au laboratoire, et là on est en train de terminer un essai clinique très ambitieux sur des patients atteints de maladie de Crohn. Et en fait, ce qu'on a pu montrer, c'était que cet additif, qui est un agent émulsifiant, et en fait, on est en train de montrer que ce serait exactement les mêmes mécanismes pour d'autres agents émulsifiants qui sont également largement utilisés par l'industrie agroalimentaire, c'était qu'ils allaient pouvoir venir décaper, éroder notre microbiote intestinal. On allait avoir cette perte de diversité. Et ce microbiote, en fait, en étant dérégulé, perturbé par ces additifs, allait se retourner contre nous, allait digérer la couche de mucus qui nous protège au niveau de l'intestin. On a cette couche de mucus qui est là normalement pour nous protéger contre notre microbiote et garder ce microbiote en bonne santé. Et en fait, quand on est exposé à ces additifs, le microbiote a la capacité à digérer, à décaper cette couche de mucus, se rapprocher de l'intestin, induire de l'inflammation de bas grade. Et on a pu montrer dans différentes études que ce serait associé à un risque accru de diabète de type 2, cancer colorectal. Et on est en train d'avoir cette étude chez l'homme pour voir l'impact sur la maladie de Crohn.
Et sur les paquets de brioches industrielles, de pain de mie ou sur les glaces qu'on retrouve donc en supermarché, il est indiqué sur l'étiquette CMC, carboxyméthylcellulose.
Alors c'est le E466.
Notez bien.
E466.
Moi, je vais regarder attentivement.
Encore une fois, c'est un parmi tant d'autres. Et on a, encore une fois, on travaille avec la cohorte Nutrinet Santé. On essaie de voir lesquels seraient les plus couramment utilisés. On peut citer notamment les carrageenan.
Ils sont très présents.
Exactement, ils sont très,
c'est
très présents.
C'est quoi le carrageenan?
Les carrageenan, en fait, c'est extrait d'algues. Et ça, c'est un agent gélifiant, texturant. Ils sont très présents dans les aliments transformés, ultra transformés. E407 ou E471, je ne me souviens plus. Je les confonds un peu.
Carrageenan.
On voit bien qu'on ne va pas demander à chacun d'aller regarder la liste de tous les E possibles.
Moi, à titre personnel, je regarde vraiment la liste.
C'est très bien,
liste,
mais il faut penser à la population en général. Et l'intérêt d'un score comme le Nutri-Score, c'est d'être visible immédiatement. Il faut le développer. Il faut maintenant qu'il tienne compte des avancées de la science. Et c'est l'intérêt d'avoir ce type de score.
Allez, dans un instant, on s'intéresse aux polluants organiques persistants comme les dioxines, les PFAS, certains pesticides présents dans notre assiette. Ce sera juste après avoir écouté Ethel et Banshee the Great qui interprètent Sorted, 10h52 sur Inter.
Everything has been holding me down. Will I finally calm my mind?
Ethel et Banshee's a Great interprété Sorted.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Alimentation, comment les additifs, pesticides et autres métaux lourds nous rendent malades. C'est le thème ce matin en compagnie de nos chercheurs Robert Barouki, Mathilde Touvier et Benoît Chassin. Robert Barouki, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'une de vos spécialités, les contaminations alimentaires par des substances chimiques, par exemple les polluants organiques dits persistants comme les dioxines, les PCB, les PFAS, certains pesticides. Quels sont les risques que nous font courir tous ces polluants persistants sur notre santé, sur notre système nerveux, immunitaire, hormonal, sur la reproduction humaine.
Vous venez de le dire.
Sur certains cancers.
Certains sont cancérigènes, avec des effets sur le système nerveux, le système immunitaire. Je le cite en particulier parce que pour les PFAS, par exemple, dont on entend beaucoup parler, ils ont des effets multiples. Les PFAS, certains sont cancérigènes, mais d'autres peuvent affecter aussi le système immunitaire. On répond moins bien aux vaccins quand on est contaminé par certains PFAS. Mais ça me permet de signaler deux choses. D'abord, persistant, c'est dangereux parce qu'on voit bien que les études réglementaires ne voient pas tout. Et qu'ensuite, il y a d'autres études qui viennent conforter ou voire montrer de nouveaux effets. Donc, si vous avez toléré des substances persistantes, une fois que, que la recherche, notamment la recherche académique, montre qu'il y a des effets insoupçonnés, c'est trop tard. Ils sont persistants, ils ne se dégradent pas. Donc vous avez un énorme problème de contamination qu'on a beaucoup de mal.
On les retrouve où, tous ces polluants persistants dans notre alimentation
On les trouve beaucoup, malgré tout, dans l'alimentation, mais ils sont présents, certains sont présents dans l'eau. Pour les PFAS, c'est dans l'eau. Pour la dioxine PCB, ils ne vont pas dans l'eau. Donc ils sont plutôt dans l'alimentation grasse, en particulier. Tout ce qui est gras apporte ces produits. Donc il faut
Très attention. Dans les poissons gras, notamment.
Absolument, c'est avec le mercure. Hein, c'est les copains, donc ils viennent avec le mercure dans les tons gras, etc.
Au terme de cette émission, docteur Touvier, professeur Chassin, professeur Barouki, quelles sont vos recommandations, vos conseils, vraiment, en cette fin d'émission ?
Je commence ?
Oui, allez-y.
Alors, moi, je pense, pour en revenir et pour conclure sur le microbiote, je pense qu'il faut vraiment garder en tête qu'on a cette richesse, cet écosystème en nous qui nous veut du bien, qui est vraiment un allié dans tout un tas de bénéfices santé. Hein. Le microbiote intestinal joue un rôle dans nos réponses immunitaires, nous protège contre les pathogènes, participe à une bonne réponse immunitaire, notamment quand on subit une vaccination, etc. Il faut vraiment garder en tête que ce microbiote nous veut du bien et qu'il faut, du coup, en prendre soin, le nourrir. On n'a pas trop parlé des fibres, mais vraiment, cet apport en fibres avec des fruits, des légumes, des légumineuses très diversifiées au cours de la semaine pour nourrir en fait toute cette richesse, tout cet écosystème pour qu'il nous protège et qu'il nous joue un rôle en bonne santé et inversement, éviter tous ces additifs, ces contaminants pour lesquels les données sont en train de s'accumuler sur l'impact négatif sur ce dernier. Voilà, c'est vraiment remettre le microbiote au centre un petit peu de nos attentions du quotidien quand on s'alimente.
Docteur Touvier.
Oui, je pense que le résumé est très bien fait par le Programme National Nutrition Santé, hein, qui résume, si vous allez sur mangerbouger.fr, vous aurez toutes les recommandations qui, en l'état actuel, sont celles qui maximisent vos chances de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et donc, les aspects Nutri-Score, pas trop d'aliments ultra-transformés, manger bio, etc., déclinés aussi selon les différents âges. Vous aurez même des idées de recettes avec la fabrique à menu. Donc, tout ça est vraiment bien résumé sur mangerbouger.fr.
La fabrique à menu, tiens, ça me plaît beaucoup, ça. Robert Barouki ?
Écoutez, pour résumer, la prévention, ça rapporte. La prévention rapporte énormément, évidemment, sur le plan sanitaire. On se sent assez vite mieux si on commence à avoir une alimentation équilibrée telle que c'est recommandé par le programme Nutrition Santé. Et puis, ça rapporte sur le plan économique. Toutes les études médico-économiques montrent que le retour sur investissement d'un programme de prévention tel qu'on vient d'en parler est extrêmement utile sur le plan économique et sanitaire, bien entendu.
Et faire confiance au Nutri-Score,
absolument,
mis en place notamment par le professeur Herberg, lui faire confiance notamment, et puis revenir justement pour le microbiote à une alimentation notamment de type méditerranéen, la fameuse diète méditerranéenne où les fibres sont à l'honneur. Merci en tout cas à vous tous, Mathilde Touvier, Bruno Chassin et Robert Barouki. N'hésitez pas à partager cette émission depuis l'appli Radio France. Demain, dans Grand Bien vous fasse week-end, on s'intéresse à l'esprit d'aventure. Comment cet esprit d'aventure a changé l'histoire de l'humanité pour notre plus grand bien, avec des conséquences concrètes sur notre vie quotidienne. Nous inviterons le géohistorien Christian Grataloup.